Et nous sommes au kilomètre 261 depuis Source-Seine, en continuant notre exploration des bords de la Seine. Et c'est le moment de vous parler d'Ulysse. Après tout, au fond, le roman, comme disait Caillois, c'est soit une Iliade, soit une Odyssée. Et je vais vous présenter la vie d'un homme qui, après beaucoup d'aventures honorables, a décidé de devenir Ulysse. Un homme admirable et à peu près oublié qui fut l'un des disciples lointains du héros d'Homère. À cette différence près que Victor Bérard, puisque c'est de Victor Bérard dont je vais parler, a remplacé lui dans toute sa vie la ruse par la franchise. C'est un enfant de la Troisième République qui a connu un parcours classique de la Troisième République. Il est né en 1864 dans le Jura et très tôt, il a eu comme enfant le spectacle des mésaventures de la politique. Il a vu ce que la politique produisait de drames quand elle n'était pas convenablement conduite, puisque avec son père pharmacien, il avait assisté à la déroute de l'armée Bourbaki, à la retraite de la Cluse dans le Jura, où des milliers de soldats mouraient de froid dans la neige. En 1884, il rentre à la rue d'Ulm, et là, il a comme professeur deux grands géographes de l'époque, qui sont Fussel de Coulanges et Vidal de la Blache. C'est l'époque où, après la défaite face à l'Allemagne, l'idée est de se mettre à l'école de l'Allemagne et d'apprendre de l'Allemagne, ce qui a fait de l'Allemagne une grande nation capable de battre la France. Et c'est ainsi que Victor Bérard apprend l'allemand, mais que, assez curieusement, il en deviendra, d'une certaine manière, un adversaire résolu, non pas de l'Allemagne, mais des prétentions de ce qu'il a appelé la science allemande. Vous vous souvenez que Schliemann, l'archéologue, avait découvert Troie et a publié un livre présentant cette découverte comme une victoire de la science allemande. Et ça a donné lieu à un magnifique pamphlet de Victor Bérard qui s'appelle « Schliemann, un mensonge de la science allemande ». En 1887, il quitte l'école normale et il découvre l'école française d'Athènes. Et pour lui, c'est un éblouissement. Voilà cet enfant du Jura, pur produit des universités françaises, et qui découvre le monde de la Méditerranée et qui en prend un éblouissement, qui en prend une empreinte qui ne le quittera jamais pour toute sa vie. C'est un peu pour lui l'été à Tipaza et on imagine au fond les barbes, les redingotes épaisses sous le soleil de Délos. À Mantinée, là où il fouille pour la première fois, il fait une véritable, ce qu'on appelle maintenant une percée conceptuelle, en expliquant pour la première fois l'histoire du site par sa géographie. Et il passe des années heureuses entre le vin résiné et le silence des dieux. Il apprend l'hébreu, il s'intéresse à la Bible, il devient professeur à l'école navale quand il revient en France. Et c'est là où la conscience politique, qui avait toujours été probablement sous-jacente chez lui, le rejoint. C'est l'affaire Dreyfus. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, il est bien noté par les cadres de l'école navale. Après l'affaire Dreyfus, on trouve dans son dossier une note de 1898, valeur intellectuelle peu contestable, rectitude du jugement beaucoup plus. C'est parce que Victor Bérard a pris position en faveur de l'innocence du capitaine Dreyfus. Il commence, en dehors de ses travaux archéologiques qui sont absolument majeurs, à publier des analyses politiques qui sont précises et superbes. La politique du sultan, par exemple, est tout à fait transposable aujourd'hui à ce qu'on peut imaginer, penser à propos d'Erdogan. C'est une pensée politique qui est présentée dans une langue vivante, dans une langue belle, avec des descriptions parfois stendhaliennes, rapides et lumineuses, comme sa description de Constantinople. La description par Bérard de la peur inguérissable du sultan, cette peur qui est au fond au cœur de tout despote, est un véritable morceau d'anthologie. Et puis, il y a chez cet universitaire qui était pur, qui était droit, que tous les gens de son époque ont décrit comme une personnalité morale incontestable, une absence totale de prudence qui nous séduit. Il y a une violence chez Bérard et on peut encore méditer cette phrase qu'il a écrite sur les persécutions religieuses en pensant à tous ceux, Syriens, Égyptiens, que ce pays de la liberté, la France qui est le nôtre, a abandonné. Je vous cite la phrase que Bérard a écrite à propos du massacre des Arméniens. « Apprenez le français, petites Arméniennes. Vos pères l'avaient appris. Quand le présent leur semblait trop dur, ils regardaient vers la France, mais sans un mot, sans un geste de pitié. Nous avons laissé assommer vos pères. » Il est renvoyé des revues où il écrit pour cause de dreyfusisme. C'était pourtant un digne professeur, le plus grand archéologue de son temps et aucunement un anarchiste. Il est filé par la police, il figure sur la liste des signataires de J'accuse et c'est avec d'autres qu'il fonde la Ligue des droits de l'homme, se liant avec Blum, Clémenceau et Mirbeau. Et il s'installe en 1910 ici, au 75, avenue d'Enfer-Rochereau, là où nous sommes, alors on ne voit plus la maison, puisque maintenant c'est un monstrueux bâtiment parisien de style bulgare, qu'on pourrait voir absolument n'importe où en Europe, et qui ne ressemble pas du tout à la petite maison qu'habitait Bérard, et derrière laquelle il avait construit un jardin avec tout ce qui pouvait lui rappeler l'Orient, avec des figuers, avec des bougainvilliers, avec des choses dont on se demande comment il arrivait à les acclimater à Paris. Et c'est là qu'en 1914, Alors qu'on pensait que les Allemands allaient rentrer dans Paris juste avant la victoire de la Marne, qu'averti qu'il était sur la liste noire des Allemands, il a fait brûler ses archives dans son jardin. Mais Bérard restera surtout dans nos mémoires pour autre chose, pour un livre extraordinaire qui sont les 4 volumes des Navigations d'Ulysse qu'il a publié en 1927. Bérard a eu une intuition. Il a pensé qu'Homère racontait dans l'Odyssée un périple phénicien dont il avait eu connaissance, et que donc l'Odyssée n'était pas sorti tout armé de son cerveau de créateur littéraire. Ulysse, pour Bérard, est réel. Et Bérard, dans les années 1912-1913, même si le livre ne sera publié que plus tard, loue un yacht et se met à la poursuite d'Ulysse. Et de même qu'Ulysse est réel, il va mettre dans les Navigations d'Ulysse toute l'histoire de sa vie, des notations personnelles, des récits de voyage aux Antilles, des techniques de chasse au blaireau. Il va même commenter la finesse de la silhouette du petit chaperon rouge. Tout y est, y compris les cailles rôties dans les feuilles de vigne, les raisins refroidis dans la jatte poreuse. On a parlé à ce propos de collage de la vie. On l'a rapproché des surréalistes. Il était accompagné d'un extraordinaire photographe, qui est un Suisse, si je me souviens bien, qui s'appelait Boissonnas. Et à la fin, comme par un retour merveilleux, Boissonnas se convainc que Bérard est Ulysse, ce qui n'était pas si faux. Et il le photographie sans relâche. Il cesse de photographier la grotte de Nausicaa, les rochers, les choses où Bérard imagine qu'Ulysse est passé. Non, c'est Bérard qu'il photographie. Il a conscience, il croit qu'il est avec Ulysse. Il le photographie dans le bois de Perséphone, dit-il, avec ses saules aux fruits morts et ses hauts peupliers. Et c'est ainsi, au fond, que s'accomplit, dans ce livre magique et dans les mirages de l'argentique, la destinée de cet homme intelligent et enfantin qui avait rêvé la République comme si elle était une autre Ithaque.